Et bonsoir à tous. Tout poète a deux poésies, la sienne et celle de Baudelaire. Aucune mystique ne va plus haut, aucun classicisme n'est plus strict, aucun abîme n'est plus obscur, personne n'est plus beau, personne n'est plus laid que lui. Et c'est de lui donc, Charles Baudelaire, le roi des poètes, l'homme des joies sombres et preuve s'il en est, de l'existence de l'art, que nous allons parler toute la semaine dans les nouveaux chemins de la connaissance, en compagnie du philosophe Jacques Dariula, qui enseigne l'esthétique à Paris 4, dans une série d'émissions enregistrées le samedi 27 octobre dans le studio 134 de la maison de Radio France.
Pascal avait son gouffre avec lui se mouvant. Hélas, tout est abîme. Action, désir, rêve, parole. Et sur mon poil qui tout droit se relève, maintes fois de la peur, je sens passer le vent. En haut, en bas, partout, la profondeur, la grève, le silence, l'espace affreux et captivant. Sur le fond de mes nuits, Dieu, de son doigt savant, dessine un cauchemar multiforme et sans trêve. J'ai peur du sommeil comme on a peur d'un grand trou, tout plein de vagues horreurs, menant on ne sait où. Je ne vois qu'infini par toutes les fenêtres. Et mon esprit, toujours du vertige hanté, jalouse du néant l'insensibilité, à ne jamais sortir des nombres et des êtres.
Jacques Dariula, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Culture. Alors, on vient d'entendre un poème magnifique, comme tous les poèmes, de Baudelaire, un poème intitulé « Le Gouffre », qu'il veut un hommage à Blaise Pascal, lu par Anne Brissier. Alors, il y a plusieurs choses dans ce poème. La première chose qui me frappe dans ce texte, c'est sur le fond de mes nuits. Dieu, de son doigt savant, dessine un cauchemar multiforme et sans trêve. C'est à partir du plus beau noir, hein, le fond des nuits que Baudelaire écrit et que Dieu trace les chemins de son écriture. On peut dire ça comme ça ?
Oui, on peut peut-être interpréter les ténèbres du spleen comme... Comme ces merveilleux nuages qui sont en fait un écran de fantasmagorie où le poète voit apparaître des formes.
On dit souvent que c'est sur une page blanche que les choses s'inscrivent, ici c'est sur une page noire.
Exactement, oui. J'ai souvent été frappé de l'expression de l'angoisse de la page blanche, elle m'a toujours paru stupide. La difficulté d'écrire, c'est que précisément, la page est saturée de rêves et d'angoisse et fait obstacle à l'écriture. Et il est vrai que la page sur laquelle écrit Baudelaire est une page nocturne. Ce sont les ténèbres de l'ennui, ou du moins c'est la première expérience poétique, je dirais c'est la porte, le porche par lequel s'inaugure son initiation poétique. Il faut passer par l'ennui, il faut faire un voyage jusqu'au bout de l'ennui, pour rencontrer cet autre monde que veut rendre inoubliable la poésie baudelairienne.
On va le faire, hein, ce voyage au bout de l'ennui, toute la semaine. On va aller au fond de cet ennui baudelairien,
oui.
Justement.
Prévenons si nos fond, auditeurs il y a, rien n'est moins ennuyeux que d'aller au bout de l'ennui.
Absolument, rien n'est moins ennuyeux, rien n'est plus réjouissant que d'aller au fond de l'ennui baudelairien, sachant que cet ennui, justement, n'a pas de fond. Je ne vois qu'infini par toutes les fenêtres, il dit. Oui. Hein, et mon esprit, toujours du vertige hanté, jalouse du néant, l'insensibilité pour aller dans votre sens. Il termine ce poème par un drôle de vers très énigmatique sur lequel les commentateurs se disputent depuis bien longtemps. Ah, ne jamais sortir des nombres et des êtres. Jacques Dariula, selon vous, est-ce un regret ou un souhait chez Baudelaire? Ne jamais sortir des nombres et des êtres.
C'est un souhait, mais désespéré, puisque...
C'est un oxymore, ça, quand même. Un souhait désespéré, vous voulez dire un vœu pieux?
C'est un oxymore, c'est un souhait d'un poète qui se sait dans un monde, sous le Second Empire, comme disait Flaubert, comme on dit sous des tonnes en quelque sorte, écrasé par une modernité qui refuse la poésie. Baudelaire exprime le désir, enfin, le nostalgie, j'aime pas beaucoup ce mot, mais enfin... la question est de savoir comment être poète sous le Second Empire, c'est-à-dire comment retrouver la forme de la beauté dans un monde, comment faire de l'or avec la boue, et comment retrouver la forme de la beauté dans un monde qui semble s'être résigné à l'informe, qui a renoncé hormis le dandy héroïque et aristocratique qui maintient la forme pour l'amour des formes et qui sauve ainsi l'art dans la pure gratuité de la mode, tous semblent se résigner à l'abandon de l'idéal, c'est-à-dire de la pure forme de la beauté. Et ainsi, quelle est la tâche du poète? Puisque le poète, c'est précisément de dessiner la forme de la beauté. Que peut-il faire dans un monde en lequel cette beauté est exilée? À ne jamais sortir des nombres et des êtres, personnellement, je le comprends. Oui, c'est le souhait du poète, mais précisément, il vit dans un monde sans nombre, sans forme véritablement existante.
Dans les paradis artificiels, il dit à un moment, on va revenir longuement sur les paradis artificiels, mais il dit à un moment que l'esprit devient mathématique en absorbant des drogues, et qu'il pose sur le monde un regard presque arithmétique.
Oui, mais précisément, la drogue nous fait découvrir un autre monde qui va faire réapparaître la beauté de formes éternelles qui nous sauveront de l'informe et de l'uniforme des foules modernes.
Baudelaire doit beaucoup à Pascal, vraisemblablement. Là, il lui rend hommage. Dans Les Paradis Artificiels, il dit « Tout mène à la récompense ou au châtiment, deux formes de l'éternité », ce qui est peut-être une autre référence pascalienne. Et il y a chez Baudelaire la nostalgie du présent.
Oui.
Bizarrement.
Ah oui, le plus insaisissable, c'est le présent, c'est de devenir ce qu'on est, c'est d'arriver à vivre pleinement le présent que nous sommes. Mais le lien avec Pascal, oui, est très profond. Le gouffre et le silence éternel des espaces infinis, oui, mais le gouffre extérieur chez Pascal n'a de signification que parce qu'il fait écho à un gouffre intérieur. Et l'homme réfléchit, c'est le sens du vertige, dans l'abîme sans fond, le néant qui est en lui, et c'est cette intériorisation du néant et du gouffre, le gouffre est en nous, qui est véritablement effrayante. Et cette expérience s'appelle celle de l'ennui chez Pascal, la stratégie de diversion de l'ennui étant celle du divertissement. Effectivement, c'est le mal de tout moderne, qui a perdu les nombres et les êtres, qui a perdu les critères, qui a perdu les limites qui permettaient de fonder une solidité d'existence, disons, et qui se trouve devant l'indéterminé et l'infini. Cette expérience de l'ennui à laquelle Pascal accorde une dignité vraiment métaphysique, puisque c'est une étrange passion, la passion du néant, c'est ce par quoi je vis mon effondrement lent dans le temps, c'est-à-dire dans le néant et vers ma mort, c'est là, supplice dont le modèle est celui de la crucifixion chez Pascal, eh bien, on le retrouve, on peut dire que Baudelaire le pousse jusqu'à sa limite extrême, en lui donnant un nom américain. Je crois que la première fois qu'on trouve ce nom de spleen, qui signifie simplement la rate, c'est-à-dire l'organe qui produit la bile noire, donc qui est cause, selon la médecine de l'ancienne théorie des humeurs, de la mélancolie. Donc ce mot spleen, qui apparaît très rarement, mais au XVIIIe siècle, je crois que Diderot est un des premiers à l'employer, ça sera le nom de l'ennui chez Baudelaire, parce que notre malheur, c'est que le monde, comme il le dit par un néologisme dont il est l'inventeur, s'est américanisé, que tout le monde se voue à l'ardeur de Plutus, et que cette agitation sans fin correspond à la vanité totale de nos existences, qui en fait tombent dans un gouffre, sans que plus personne ne puisse définir des seuils ou des limites. Et donc il ne s'agit plus de cet ennui métaphysique au fond duquel nous méditons sur la passion du Christ, comme chez Pascal, et qui est l'expérience par laquelle nous éprouvons le néant essentiel, central.
Mais il s'agit de la beauté.
La beauté nous sauve du spleen. Puisque précisément, elle va faire surgir de ce fond informe, de ce gouffre sans fond, une forme qui est digne d'être éternisée. Et c'est la tâche de l'artiste.
Ce qui veut dire, alors, mais cette forme qui est digne d'être éternisée n'est pas une forme qu'il faudrait inscrire dans un processus, finalement, où la beauté serait le marchepied du vrai, comme elle l'est dans une métaphysique plus classique, qui serait celle de Platon, et puis ensuite, d'ailleurs, parce qu'il s'inspire de Platon, celle de Hegel. L'art, l'esthétique que Baudelaire met en place, le Baudelaire implicitement philosophe, en fait, qui est celui dont nous allons parler,
oui.
Cette esthétique qu'il met en place est une esthétique qui s'oppose à l'idée qu'on pourrait intégrer la beauté dans un processus par lequel l'esprit se rejoindrait lui-même, finalement, pour conquérir l'absolu. La beauté effectivement nous sauve du néant, nous sauve du spleen, mais elle le fait, j'allais dire, de façon ponctuelle. Elle le refait à chaque fois. Il y a une ponctualisation de la sortie du spleen par la beauté chez Baudelaire qui est tout à fait absente chez tout professeur d'esthétique qui veut, par exemple, assigner à l'art une tâche particulière, un rôle précis, voire justement dire de l'art qu'il est inférieur à remplir cette tâche, enfin qu'il est moins bon à remplir cette tâche que la philosophie ou la religion. Baudelaire n'est pas là-dedans. Il y a quelque chose de l'ordre d'une esthétique pour elle-même ou d'une beauté qui est à elle-même sa propre fin chez Baudelaire.
Je partage tout à fait votre sentiment lorsque vous dites que la beauté que l'artiste baudelairien doit préserver, sauver de l'informe pour la transmuer dans l'éternel, ce qui est la tâche de l'alchimie poétique, que cette opération n'a rien à voir avec la beauté platonicienne. Et d'ailleurs, des signes les plus... je crois que la beauté ressemble assez au regard d'un sphinx, au regard métallique d'un sphinx, et le sphinx baudelairien, qui est le regard sans pensée d'une fille à la fois fascinante et un peu bestiale chez Baudelaire, la beauté, il le dit très bien, va de pair avec la bêtise, elle va de pair avec l'inconscience. Rien n'est plus beau que le regard d'un chat, par exemple. Et les yeux des femmes évoquent souvent les yeux des chats. Le chat est une sorte de sphinx domestique, et cette beauté est donc le chat ne pense pas. Sa beauté est énigmatique, elle est un hiéroglyphe indéchiffrable, et elle a cette particularité de ne rien signifier. Donc elle n'est pas du tout le vrai et le bien. Elle n'est pas du tout, si elle nous sauve, c'est pas du tout parce qu'elle enseigne un concept qui donnera sens à l'existence. Elle est le mystère d'une pure présence qui scintille, et dans laquelle, comme il le dit, texte magnifique dans un poème en prose, où il dit que les Chinois, quand on leur demande l'heure, regardent dans les yeux des chats. Et il dit que sa maîtresse, qu'il appelle la belle Féline, quand il contemple ses yeux, il voit l'heure, et cette heure, dit-il, c'est l'heure de l'éternité. Donc, effectivement, c'est une beauté qui est sans vérité, qui est sans bien, qui n'a rien de platonicienne. Et la seconde chose que me suggèrent aussi vos remarques, c'est qu'effectivement, je pense que Baudelaire est un philosophe de l'esthétique. C'est-à-dire que l'idée que la beauté ne signifie rien, par exemple, Baudelaire n'est pas le premier à le dire.
Non, Kant l'avait dit avant lui.
Exactement. Exactement.
Kant l'avait dit avant lui. Mais là, il faut rappeler, en termes d'histoire des idées, d'ailleurs, le sens de la querelle implicite entre Kant et Hegel. De ce point de
Absolument.
Vue, l'esthétique kantienne est une esthétique, donc celle qu'il déploie dans la critique de la faculté de juger, le maître texte, qui au passage d'ailleurs est le texte de Kant qu'adorent tous les non-kantiens. Quand on n'est pas kantien, on reconnaît à Kant le mérite d'avoir écrit ce texte magnifique où il explique que le beau est l'objet d'un jugement de goût désintéressé, mais surtout que aucun désir de consommation ne porte vers l'objet qu'on dit beau, que le spectacle de la beauté est gratuit, qu'il y a un plaisir du beau, mais que le beau est ce qui plaît universellement, sans concept. Il débarrasse la beauté de l'injonction d'être déduite, comme elle l'était chez Platon ou chez Hegel. Et c'est le sens et la singularité irréductible de la beauté et de l'esthétique qu'il a décrit.
Absolument. Et je pense que la troisième critique, non seulement est une philosophie esthétique, mais elle énonce les principes de toute philosophie esthétique. C'est-à-dire, finalement... de la façon dont les hommes vont penser la beauté dans ce que Baudelaire appelle la modernité. Et on restera dans cet espace intellectuel, de cet espace de pensée, jusqu'au XXe siècle. Et peut-être la crise de l'esthétique commence peut-être avec ce qu'on appelle le postmodernisme, donc dans les années 60 du XXe siècle, pour des raisons que nous sommes loin encore de tout à fait comprendre. Mais la beauté, nous la penserons d'une façon kantienne, c'est-à-dire, en gros, non pas, comme on le disait avant les académies, définie par un concept qui pourrait mesurer une forme objective, par un canon mesurable, un nombre d'or, une théorie des proportions dont le corps humain serait le module idéal, en quelque sorte, mais nous la pensons comme une rencontre sensible, c'est-à-dire une violence soudaine, quelque chose de toujours surprenant, le beau est toujours bizarre, dit Baudelaire, qui est un grand philosophe à mes yeux de l'esthétique. Je pense que Le peintre de la vie moderne est un des grands textes de l'histoire de l'évolution de la pensée esthétique. La beauté trouve son origine dans un impact sensible lui-même indicible, puisque cet impact est un singulier, et que nous ne pouvons dire que le général, les mots renvoient aux idées, ils ne renvoient pas aux choses, et le jugement esthétique, c'est cette rose que je vois, comme dit Kant. Donc il y a l'impact sensible, et cet impact sensible met en jeu nos facultés dynamiques, représentatives, celles de l'imagination et de l'entendement chez Kant, dans le cas du beau, c'est-à-dire que nous créons ce choc de la rencontre sensible dans sa surprise. Ce hasard objectif de la rencontre sensible produit un jeu, une rêverie intelligente, car la création poétique est intelligente, puisqu'elle mobilise l'entendement, dans le cas du sublime, elle mobilise la raison, dit Kant, et l'imagination qui est productrice de forme en une espèce de métamorphose. C'est ce que voit le poète dans Les merveilleux nuages. Les nuages sont un formidable écran pour
Ça,
multiplier
c'est le texte du spleen de Paris qui s'appelle L'étranger.
Exactement, c'est le premier poème en prose qui ouvre le spleen de Paris et qui est déjà aussi un traité de poétique. Bon, et qui est un traité de poétique kantien. Kant ne parle pas de merveilleux nuages, il parle des remous de l'eau ou des flammes du feu, et c'est-à-dire d'un informe mouvant du sein duquel le jugement esthétique, par une opération très mystérieuse et dont il est passionnant de suivre la complexité chez Kant, que Kant nomme le schématisme sans concept, par le trait du génie, c'est un don de la nature, ça n'est pas du tout un calcul de l'esprit, eh bien, un trait est prélevé. C'est le propre du génie que de l'informe faire surgir le trait, ce qui va assez bien avec l'art de Delacroix, que admirer les dessins de Delacroix sont merveilleux, ils partent souvent d'un trait très soudain. Par exemple, les études pour la liberté sur les barricades, les dessins pour ce célèbre tableau qui figurait autrefois sur les billets de banque.
La liberté guidant le peuple.
La liberté guidant le peuple. Les esquisses préparatoires pour le tableau commencent par tracer la courbe de la hanche de la liberté qui devient une sorte de Vénus, si vous voulez, qui surgit non pas de l'onde, mais du pavé. Et la courbe de la hanche est admirable sur les scènes de Delacroix. Delacroix qui disait, il faut savoir dessiner, c'est savoir dessiner un homme qui tombe du cinquième étage avant qu'il n'atteigne le sol. Et la courbe est un seul trait. Ensuite, tout le corps est déduit du premier trait. Et la beauté, c'est cela. C'est de l'informe, faire surgir le trait d'une hanche qui s'élève, apparaissante, si vous voulez. Toute beauté est un phénomène apparaissant. Et ensuite, par imagination et entendement, c'est-à-dire par la rêverie intelligente de la création artistique, composer la forme. Mais c'est toujours la nature, comme dit Kant. Ce n'est pas les académies, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas ce qu'on doit savoir de la beauté qui donne le premier trait. Hein, comme disait Valérie, le premier vers, ce sont les dieux qui le donnent. Tout le reste, c'est au poète de le faire.
De là l'idée kantienne que la beauté naturelle est supérieure à la beauté artistique, ce qui n'est pas une façon de minorer la beauté artistique, mais au contraire, de lui donner les moyens d'être constamment renouvelée justement par le spectacle de la nature et l'attention que l'artiste lui porte. Vous parliez des nuages tout à l'heure, Jacques Dariula. Les nuages, effectivement, on peut considérer que Baudelaire est presque plus kantien que Kant quand il parle des merveilleux nuages. Un nuage... Aucun humain, à moins d'être fou, ne pourrait trouver laid un nuage. Ou alors le nuage est très gris et il signifie orage, auquel cas son jugement de goût est pollué par l'inconvénient que lui pose évidemment la perspective d'un cumulonimbus et de l'orage qui va tomber sur le pique-nique qu'il avait l'intention de faire à la campagne. Mais si on laisse ce cas de figure de côté, les nuages sont beaux. Or, on s'entendra tous pour dire que les nuages sont beaux. Et on s'entendra tous pour dire aussi que les nuages ont une forme. On ne s'entendra pas en revanche pour dire quelle est la forme de ces nuages. Vous pourrez voir une sorcière en train de faire la vaisselle, et moi-même, un joueur de foot, peu importe la forme en question, on s'accordera pour dire qu'il y a une forme, mais on ne s'entendra pas sur la forme à leur donner. Et Kant décrit ça justement, dans le jugement de goût et dans le rapport à la beauté. On a le sentiment d'une finalité, le sentiment d'une forme, mais en réalité cette forme, on ne peut pas véritablement la définir, la décrire. Et il appartient à l'artiste de la magnifier et de lui donner une direction. C'est ce que fait Baudelaire.
En réussissant à cristalliser cette forme, à la faire passer dans l'éternel, pour prendre des termes baudelairiens, certes, elle n'appartient qu'à l'halluciner, comme vous venez de le dire, elle est subjective, mais c'est le propre de l'art que de l'ouvrir à l'universel, c'est-à-dire d'extirper la forme de l'ici maintenant, qui est toujours l'origine nécessairement inconnaissable, qui est une pure rencontre sensible du jugement esthétique, de l'élever de ce point pour en faire une forme inoubliable pour tous, donc qui pourra prétendre à l'universalité, même si cette universalité sera purement subjective, c'est-à-dire ressentie comme un élargissement de l'imagination et de l'entendement, des facultés qui sont les plus créatrices, les plus spontanées en nous, sans que on ne puisse jamais la démontrer comme on peut démontrer l'universalité d'une proposition logique.
Alors, c'est dire qu'il y a chez Baudelaire un rapport à l'idéal qui est tout à fait particulier, puisque Baudelaire, finalement, critique la beauté idéale et classique. Il s'en prend à David, par exemple, Jacques-Louis David, figure de l'art classique ou néoclassique par excellence, et ses tableaux léchés et impeccables. Baudelaire n'aime pas ça, on va y revenir. Il critique cet idéal de rythmie, de symétrie, là encore, hein, platonicien ou hégélien, où il s'agit d'accéder par la beauté à la représentation sensible de l'absolu. Chez Baudelaire, comme il le dit hein, dans le compte-rendu de l'exposition universelle de 1855, cette fameuse phrase, « Le beau est toujours bizarre. Je ne veux pas dire, dit-il, qu'il soit volontairement, froidement bizarre, car dans ce cas, il serait un monstre sorti des rails de la vie. Je dis qu'il contient toujours un peu de bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente, et que c'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. C'est son immatriculation, sa caractéristique. » Je voudrais qu'on entende tout de suite, pour aller dans ce sens et ce débat des idéaux, aller entendre tout de suite un très beau petit poème en prose intitulé « Laquelle est la vraie ?»
J'ai connu une certaine Bénédicta qui remplissait l'atmosphère d'idéal et dont les yeux répandaient le désir de la grandeur, de la beauté, de la gloire et de tout ce qui fait croire à l'immortalité. Mais cette fille miraculeuse était trop belle pour vivre longtemps. Aussi est-elle morte quelques jours après que j'eus fait sa connaissance. Et c'est moi-même qui l'ai enterrée, un jour que le printemps agitait son encensoir jusque dans les cimetières. C'est moi qui l'ai enterrée, bien close dans une bière d'un bois parfumé et incorruptible comme les coffres de l'Inde. Et comme mes yeux restaient fichés sur le lieu où était enfoui mon trésor, je vis subitement une petite personne qui ressemblait singulièrement à la défunte et qui, piétinant sur la terre fraîche, avec une violence hystérique et bizarre, disait, en éclatant de rire, « C'est moi, la vraie Bénédicta, c'est moi, une fameuse canaille, et pour la punition de ta folie et de ton aveuglement, tu m'aimeras telle que je suis. » Mais moi, furieux, j'ai répondu « Non, non, non !» Et pour mieux accentuer mon refus, j'ai frappé si violemment la terre que ma jambe s'est enfoncée jusqu'au genou dans la sépulture récente et que, comme un loup pris au piège, je reste attachée, pour toujours peut-être, à la fosse de l'idéal.
Jacques Dariula, laquelle est la vraie, dans les petits poèmes en prose, donc cette aventure de Baudelaire qui a connu une certaine Bénédicta et qu'il a enterré, mais il n'a enterré d'elle que ce qu'elle avait d'immortel, justement, alors que celle bien mortelle, épouvantable et en même temps vivante, eh bien, c'est celle qui proteste de son existence et face à laquelle il se trouve, et lui, le nostalgique de l'idéal. Baudelaire a un drôle de rapport à l'idéal, on dirait qu'il y aspire, et en même temps qu'il s'en méfie. D'ailleurs, ce qu'il dit de David, auquel il préfère, par exemple, les gravures de Daumier, en est l'exemple même, non ?
Absolument, oui. Je reviens peut-être un peu sur le beau est toujours bizarre. En vérité, c'est une formule. Alors, bien sûr, le beau est toujours bizarre parce qu'il est surprenant. C'est une formule qu'il emprunte à Edgar Poe et qui se trouve au début de la nouvelle Ligeia. Et le beau est toujours étrange, traduit-il lui-même. Edgar Poe cite Francis Bacon, le chancelier du 16e, et l'idée était assez simple au fond, alors que Baudelaire va lui donner un tout autre sens, mais Poe également, c'était que le canon des proportions crée un beau académique, un visage sans expression, une femme parfaitement belle, a l'air finalement parfaitement bête, elle est totalement inexpressive, il lui manque ce que la tradition nommait la grâce, c'est-à-dire le rayonnement de l'esprit, et par conséquent, le beau en soi est sans esprit et insuffisant. Il faut une certaine asymétrie, un certain défaut pour donner de l'âme.
Est-ce que c'est l'asymétrie qui compte ou est-ce que c'est le singulier ?
C'est le singulier, oui.
Parce que, est-ce que vous comprenez ?
Parce que ce n'est pas une statue de pierre.
Voilà parce que Platon faisait de la beauté, de la symétrie, le critère de la beauté, oui. Puisque la beauté était un élément qui devait nous guider vers le vrai. Si oui. La beauté est dissociée de la vérité ou du vrai, débarrassée de cette tâche, Est-ce que c'est l'absence de symétrie qui témoigne de la beauté, ou est-ce que c'est tout simplement le fait que chaque élément est singulier et finalement ne peut pas être mis en miroir?
Oui. Lorsque Baudelaire cite cette formule, c'est une citation de Bacon, il la cite dans le contexte du XVIe siècle. C'est une protestation de la part d'un penseur empiriste contre le dogmatisme d'une beauté académique qui prétend être une idée de l'esprit que nous devons imiter, seul modèle intelligible, digne du peintre. Donc c'est une première attaque. Mais je pense que, alors Edgar Poe l'entend dans un tout autre sens. Le beau est toujours bizarre, il veut dire que le beau est une sorte d'émissaire de l'au-delà. Comme cette Ligeia qui est une sorte de...
Chez Edgar Poe.
Mais oui, alors oui. Chez Edgar Poe.
Mais c'est un au-delà infernal. C'est la mort, oui, c'est ça, voilà, c'est un au-delà infernal.
Ligeia, oui, et c'est un nom de sirène dont le chant envoûte, attire, et elle donne la mort. Alors que l'étrangeté du beau est aussi comme un au-delà chez Baudelaire, puisque c'est un autre monde, puisqu'il n'y a de poésie, il n'y a pas de poésie dans le Second Empire, il faut découvrir un autre monde pour réinventer la poésie dans la modernité pour Baudelaire. Mais ce n'est pas la mort, c'est plutôt la vie, il me semble. C'est-à-dire que l'étrangeté du beau chez Baudelaire, c'est la forme rencontrée, hein, le visage d'une passante croisée dans le flux continu de la foule, cet arrêt sur image qui... en un instant suspend le temps et au contraire amplifie démesurément le désir de vivre. Il n'y a pas cette espèce d'hypnose, enfin pas cette espèce, il n'y a pas cette hypnose de la mort qui fait la beauté de Ligeia, femme serpent et sirène qui conduit à la mort. Il y a le signe énigmatique, indéchiffrable, qui ne signifie rien, le beau ne signifie rien. On pourrait revenir sur ce que vous disiez sur Kant et la nature, qui est effectivement un stimulant pour notre désir de vivre, qui nous... Sans cet alcool ou sans cet opium de la poésie, car l'opium superlatif, c'est la poésie, c'est la plus haute ivresse, eh bien nous perdrions à jamais le goût de vivre.
Mais alors, il faudra revenir là-dessus, évidemment, et revenir aussi sur ce paradoxe qui veut que Baudelaire donne à cette beauté la plus classique des formes et utilise notamment le nombre d'or, comme c'est le cas dans son poème « Le serpent qui danse », dont je vous propose d'entendre maintenant la version qu'en donne Léo Ferré pour terminer cette première émission.
Que j'aime avoir, cher indolent, de ton corps si beau, comme une étoile vacillante, miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns. Un navire qui s'éveille au vent du matin.
Voilà, Léo Ferré, donc, pour terminer cette première émission sur Baudelaire. Merci Jacques Dariula. Alors, je signale aux auditeurs ce que je ferai après chaque émission, qu'il n'y a pas de livre de vous sur Baudelaire, mais on peut trouver vos cours sur Baudelaire, qui vraiment gagnent à être lus, sur www.jdariula.net, donc J-D-A, 2-R-I-U-L-A-T.net. On mettra le lien en ligne, évidemment, sur le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où je vous invite, chers auditeurs, à nous retrouver dès après l'émission. Demain, on se retrouve pour parler du spleen, le mal de vivre, le dégoût de l'existence qu'on ne démontre pas, donc une émission réjouissante demain dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance à 19h30. À la réalisation aujourd'hui, c'était Mehdi Eladj. À la technique, Olivier Dupré, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richer, France Culture, il est 20h. Et tout de suite, on retrouve à Voix Nue sur France Culture.